Bienvenue sur Terre Commune, une émission bimensuelle sur votre radio CFM qui parle de biodiversité, d'écosystèmes et de nature sauvage. Je suis Anthony Vieillard, animateur et naturaliste de l'entreprise Vulgaris Terra. Nous nous retrouvons tout le long de l'année afin de parler des écosystèmes qui nous entourent, des espèces animales, parfois végétales, des oiseaux, de lieux secrets qui peuplent encore nos campagnes. Toutes ces thématiques autour de la nature sauvage ont pour but de vous faire découvrir et de vous sensibiliser à tous ces êtres vivants avec qui nous partageons notre terre. Aujourd'hui, nous allons parler du bubo-bubo, de son nom latin, ou encore de l'eagle hole, qui signifie hibou-aigle en anglais. Mais en français, nous allons parler du hibou-grand-duc. C'est un rapace, c'est-à-dire qu'il se nourrit de viande et qu'il est essentiellement nocturne, mais que l'on peut quand même voir ou entendre au crépuscule et à l'aube. C'est le plus gros et grand des rapaces nocturnes qui vit en Europe. Il y a un dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle qui permet de les différencier assez facilement. Chez les rapaces, en général, on parle de tiercelet pour parler du mâle. C'est souvent employé chez les fauconniers, par exemple. Pour la taille, donc, il fait 65 cm pour les mâles, 75 cm pour les femelles, lorsqu'ils sont debout, et font une envergure, c'est-à-dire d'une aile à une autre, qui peuvent atteindre entre 1,60 m pour les mâles et 1,80 m pour les femelles. Le mâle peut faire jusqu'à 2 kg, alors que les femelles, on est plutôt aux alentours des 3 kg. C'est une moyenne, évidemment. Il faut savoir qu'en liberté, le hibou grand-duc peut vivre jusqu'à une trentaine d'années. Il a un plumage qui se fond dans le décor. Il est teinté de beige, un petit peu grisâtre, ponctué de noir, ce qui lui permet vraiment de passer inaperçu sur les bords des falaises ou certains bâtiments même. Il a des aigrettes érectiles, comme tous les hiboux, ce qui en fait la différence avec les chouettes qui, elles, n'en ont pas. Donc des aigrettes érectiles, ce sont des plumes qui sont sur le dessus de sa tête et que l'on confond souvent avec des oreilles en général. Alors les rapaces et les oiseaux ont des oreilles, mais ils ne se trouvent pas ici, ils se trouvent vraiment sur le côté de la tête au niveau des yeux. Donc ces aigrettes en réalité sont donc des plumes, comme je le disais, qui peuvent atteindre jusqu'à 8 cm pour le hibou grand-duc. Et elle lui sert à communiquer avec ses congénères. C'est un peu comme les chevaux ou les chiens qui bougent leurs oreilles pour indiquer s'ils sont contents, pas contents, s'ils sont craintifs, s'ils sont excités, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on peut affirmer ou infirmer qu'un hibou grand-duc se sent bien ou pas. Avant que je vous parle de son régime alimentaire et de ses mœurs et de sa période de reproduction et de tout ce qu'on va pouvoir voir dans cette émission, nous allons écouter le morceau de La Mossa avec le titre « Kanzon Ron Kultiel ».
Yeah.
Vous êtes sur CFM et c'était La Mossa avec le titre Canzone Rolcultiel. Et vous êtes toujours sur l'émission Terre Commune, un rendez-vous qui parle de biodiversité. Je suis Anthony Vieillard de l'entreprise Vulgaris Terra, animateur et naturaliste. Avant la pause musicale, je vous ai donné des caractéristiques physiques du Grand-Duc. D'ailleurs, en passant, voici une petite anecdote pour se la péter un petit peu lors des repas entre amis ou entre familles. Le nom hibou ou chouette va être de moins en moins employé à cause des dernières recherches ADN qui ont été faites par les ornithologues. En fait, il s'avère que, par exemple, la chouette effraie des clochers n'est pas du tout du même ADN que celui des chouettes et des hiboux. Donc, toute cette grande famille a été regroupée dans la famille des strigidés. Sauf que, comme je viens de vous le dire, l'effraie vient d'en être sortie. Donc, elle a une famille à elle aujourd'hui, qui s'appelle la famille des Titonidés, puisqu'elle s'appelle Tito Alba, de son nom latin. Et en fait, ça implique que les ornithologues vont employer de moins en moins les appellations donc chouette et hibou. Et donc, il y a des nouveaux noms depuis quelques années, pour ces oiseaux-là, comme par exemple le hibou petit duc, et ben aujourd'hui on l'appelle le petit duc scope. Par exemple la chouette chevêche, aujourd'hui on est plutôt à l'appeler la chevêche d'Athéna, et donc ça va être pareil pour le hibou grand-duc, qu'on appelle un peu plus souvent le grand-duc maintenant. Donc ces termes de chouette et de hibou permettront de moins se tromper, grosso modo, dans les dénominations non latines, quoi. Donc en vulgarisant les noms et en ayant les noms vernaculaires, c'est-à-dire les noms communément utilisés quand on parle en français, en tout cas. C'est pas grand-chose, vous allez me dire, ça nous sert à quoi ? À nous, pas grand-chose, qu'on soit bien d'accord. C'est vraiment là un petit peu du chipotage, mais c'est vrai que dans les livres, les clés de détermination qu'on peut avoir, on trouve, en tout cas dans certains livres, de moins en moins ces appellations chouette et hibou. D'ailleurs, pour la petite anecdote aussi, souvent et pendant quelques années, on a entendu parler de la chouette Edwige, qui est la chouette de Harry Potter dans le livre et le film. Et en fait, il s'avère que cette chouette-là n'est pas du tout une chouette, mais plutôt un hibou. En fait, c'est de la famille des Harfang des Neiges. Et l'Harfang des Neiges n'est pas une chouette, mais bien un hibou. Alors, vous allez me dire qu'elle n'a pas d'aigrette, comme je l'ai expliqué un petit peu plus, un peu plus tôt. Donc, c'est plumes érectiles qu'ils ont sur la tête. En fait, chez l'Harfang des Neiges, elles sont pas très visibles pour le coup. Ce sont vraiment de petites aigrettes qui font à peine 1,5 cm. Et en fait, on la voit souvent en photo ou filmée avec les aigrettes abattues sur le haut de sa tête. Donc, on ne les voit pas sortir. Mais en fait, la problématique de les avoir appelées chouette Harfang ou chouette Edwige, c'est surtout par rapport au mot anglais l'appellation anglaise qui est en fait Howl. O-W-L. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Et ils n'ont pas de mot en anglais pour différencier la chouette et le hibou. Donc, que ça soit une chouette ou un hibou, on utilise le mot owl. Donc, sur la traduction, on a traduit facilement en disant c'est une chouette Edwige, alors qu'en réalité, dans le livre, tel que c'est écrit, c'est bien un hibou Edwige. Voilà, comme ça, vous pourrez bien vous la péter dimanche au repas de famille. Reprenons sur notre hibou grand-duc. Donc, le grand-duc, il est considéré comme un super prédateur, à la même échelle que le loup, que l'ours ou que même l'humain, l'homme. En fait, il n'a pas de prédateur, lui, à proprement parler, en tout cas à l'âge adulte, puisqu'il peut y avoir quelques prédateurs auprès des petits. En fait, c'est parce qu'il est tellement imposant. Comme je le disais tout à l'heure, 75 cm de haut lorsqu'il est debout, 1,80 m d'envergure au niveau de l'ouverture de ses ailes, et il a des pattes tellement grosses que lorsqu'il est en vol, c'est un des indicateurs, lorsqu'il est en vol, on peut voir ses pattes pendre tellement elles sont lourdes. Donc on dit souvent d'ailleurs qu'il a des gangbox à la place des pattes. Et donc ces pattes qui sont composées de serres et donc de griffes, des griffes quand même qui peuvent atteindre jusqu'à 3 cm de long, ce qui n'est pas négligeable. Et ben en fait voilà, il y a seulement l'humain qui est le prédateur de ce grand rapace. Qui peut d'ailleurs, s'il se sent vraiment en danger à l'état naturel et acculé, il va pas hésiter à attaquer l'homme. Alors, je suis pas en train de vous dire attention, il faut chasser le grand-duc parce qu'il peut s'attaquer. Non, on est bien d'accord. Hein. Je suis en train de vous dire qu'un animal qui a des craintes et qui a peur, comme tout animal, peut se retourner contre un homme. Voilà, ça c'est juste la petite aparté. Son régime alimentaire. Parce que parlons de ça, ça va vous parler un petit peu plus par rapport à ce que je viens de dire. Il a un régime alimentaire très varié. Il peut manger autant du petit rongeur au petit oiseau, comme des merles, des pigeons, qui devient un peu plus gros. Mais il peut aussi manger des lièvres, des martres des pins, et aller jusqu'à même du faucon pèlerin, des faisans, des effraies des clochers, même du renard roux, ça a été constaté et vu à certains endroits, et même des fans de chevreuil. Donc vous imaginez quand même la taille d'un fan de chevreuil, un hibou grand-duc peut chasser et manger ce genre d'animal. C'est d'ailleurs aussi un des rares à s'attaquer aux hérissons. Il va le manger avec ses épines, ce qui est assez incroyable quand même, quand on y réfléchit. Et en plus de ça, on va pouvoir trouver, en tout cas si vous trouvez des morceaux d'épines d'hérissons à un endroit un peu étalé, c'est vraiment un indicateur de la présence du hibou grand-duc. D'ailleurs, il vit à proximité ou même dans les falaises, qu'il affectionne particulièrement pour y faire son nid. Alors, quand on parle de nid, on est vraiment sur quelque chose de très rupestre, étant donné qu'il pond, la femelle pond ses œufs à même le sol. Pas de brindilles, pas de mousse, rien du tout. Donc, ce que je disais, sur les falaises ou même au pied des ce qu'on va appeler des vires, donc des rochers au milieu d'une forêt bien dégagée et surtout avec un versant assez pentu. C'est pas obligatoire que ça soit vraiment en falaise. Le grand-duc chante pour séduire la femelle. C'est un chant qu'on peut entendre jusqu'à 5 km à la ronde. Il fait un espèce de « ouh » reconnaissable. Je ne suis pas un très bon imitateur de hibou grand-duc. Et la femelle reproduit le même chant avec un octave un peu plus haut. Alors, pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée, je vous ai préparé un enregistrement pour que vous puissiez écouter ceci. Allez, je vous laisse écouter. Oh. Voilà, donc là, vous avez entendu un mâle et une femelle qui se répondaient, avec un chant quand même très caractéristique. Alors, lorsqu'on entend justement un couple se répondre en période de reproduction, c'est quand même annonciateur qu'ils vivent dans le coin. Voilà, j'ai eu la question parce qu'il s'est avéré que j'en ai entendu pas très loin de chez moi ces dernières semaines. Et donc du coup, voilà, je ne savais pas s'ils étaient de passage ou pas, et je me suis renseigné auprès de certaines personnes qui m'ont affirmé que c'était plutôt leur lieu de vie où ils chantaient de cette manière-là, en tout cas où ils se répondaient. D'ailleurs, dans ce chant, donc on est sur un chant quand même, vous avez entendu, assez rapide, qui peut se répéter entre 8 et 10 secondes, grosso modo. Un mâle qui cherche une femelle peut émettre jusqu'à 800 chants dans une seule nuit. Donc, ce qui est quand même assez énorme, hein. Il ne faut pas qu'il soit en dessous de la fenêtre. Et lorsqu'un couple se forme, et après une reproduction, la femelle va pondre entre 2 et 4 œufs qui vont incuber, grosso modo, 35 jours, à peu près, suivant la date de ponte. Une fois que les bébés grand-ducs naissent, ils vont se faire nourrir jusqu'à leur première partie de chasse, on va dire ça comme ça, qui arrivera à peu près vers les 3 à 4 semaines de vie. Alors, ils ne seront pas très agiles au début, qu'on soit bien d'accord. En fait, c'est plus de l'apprentissage. C'est les parents qui les poussent à le faire, ils les nourrissent de moins en moins. Et donc, les grands-ducs, en tout cas les bébés grands-ducs, vont se mettre à chasser avec assez peu de succès. Et les parents vont continuer à les nourrir au fur et à mesure, mais avec un petit peu moins de quantité qu'au début. Et vers leurs 10 semaines, ils vont s'envoler tout en restant proches du nid afin de continuer à explorer et à éventuellement chasser ce qu'ils peuvent. Il leur faudra à peu près 5 mois pour être totalement autonome. Je continuerai de vous parler du plus grand hibou de notre région après ce beau morceau de Apache et Alina Pache avec le titre Qui est vie. Et vous êtes sur CFM et c'était Apache et Aline Apache avec le titre Qui vit. Et vous êtes toujours dans l'émission Terre commune, un rendez-vous qui parle de biodiversité. Je suis Anthony Vieillard de l'entreprise Vulgaristera, animateur et naturaliste. Nous avons vu juste avant cette pause musicale les caractéristiques de vie et le régime alimentaire des hiboux grand-ducs. Et maintenant, nous allons parler de sa population. Donc, sur les dernières estimations 2021 que j'ai trouvées, on est entre 2000 à 3000 couples en France, donc vraiment à l'état national. Ce n'est pas énorme, mais en réalité, c'est une hausse assez flagrante chaque année. Alors, on part du principe que quand même, entre le 19e et le 20e siècle, la population a presque été éradiquée en France. Donc forcément, on part quand même de très loin. Sachant qu'en Allemagne, en Suède et dans les îles britanniques, on n'a plus de grands-ducs. Ils ont tous été chassés. Alors, il y avait une espèce de pensée commune, en tout cas de croyance qui disait que le hibou grand-duc était le messager du diable et qu'il emportait les enfants avec ses grosses pattes. Bon, on est bien d'accord que ce n'est pas le cas et que il faut vraiment les protéger. D'ailleurs, je tiens juste à dire un petit mot sur les photographes animaliers que je peux parfois rencontrer et qui n'ont pas forcément de scrupules à utiliser des appareils, en tout cas des enceintes de champs, ou en tout cas faire des champs pour essayer de faire en sorte d'avoir la plus belle photo à mettre sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas oublier quand même que le hibou grand-duc, comme tous les rapaces, c'est un animal protégé, qu'il a sa période de reproduction qui est entre décembre et le mois de mars, où il est quand même sur une période assez fragile à ce moment-là. Donc, il faut vraiment faire attention à comment aborder le lieu de vie de cet animal-là ou les observations et prendre des distances ou utiliser à la rigueur des cam-traps, c'est-à-dire des pièges vidéo, des petites caméras à déclenchement à proximité de leur nid avant période de reproduction, avant et les récupérer après que les petits soient émancipés afin de vraiment ne pas les déranger. Pour finir, je voulais vous parler de Marion Pradel, qui donc est photographe animalière sur le secteur du Ségala et de l'ouest de l'Aveyron. Et elle fait le recensement et le suivi des grands-ducs dans notre région, afin de vérifier chaque année le nombre d'individus, les couples, le nombre de portées également. C'est une personne passionnée, naturaliste aussi, photographe animalière comme je l'ai dit, qui ne travaille pas que sur le hibou grand-duc, mais qui étudie et fournit des données assez fiables pour tout ce qui est recensement. C'est de la science participative. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas énormément de budget au niveau de l'État pour faire ce genre de suivi, donc c'est des personnes bénévoles comme cette personne-là, qui prennent du temps à eux pour pouvoir faire ce genre de suivi. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux ou sur son site internet à Photophone Sauvage Marion Pradel. Je mettrai ses réseaux sociaux en description de cette émission. Il est temps pour moi de vous laisser et vous retrouverez Rémi Castagnier la semaine prochaine dans l'émission Allo Frelon, Mission Repeuplement. Et n'hésitez pas à suivre mes actualités sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet vulgaristera.fr. Je vous souhaite une belle journée ensauvagée à toutes et à tous. Et à dans 15 jours. Ciao, bye.